France Culture.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Deux études parues à quelques mois d'intervalle font état de la découverte surprenante de pigments bleus datant de la préhistoire, provenant pour l'une de sources végétales et pour l'autre de sources minérales. Cette surprise archéologique nous invite à faire la lumière sur les pigments au cours de ces périodes très anciennes et à nous interroger sur la rareté, voire la quasi-absence de ce bleu, dans la palette des préhistoriques maîtrisant comme personne les ocres jaunes ou rouges et les noirs. Au-delà des preuves spectaculaires de maîtrise des pigments par les humains de la préhistoire, que l'on peut contempler dans les grottes ornées, quels autres rôles ont pu jouer les pigments dans le quotidien de ces humains du paléolithique? Que nous dit l'archéologie et une discipline comme l'archéométrie sur la maîtrise technique requise pour la fabrication de ces pigments, mais aussi sur la connaissance des environnements géologiques par les humains de la préhistoire? On fait aujourd'hui du neuf avec du bleu et on ouvre de nouvelles pistes vers les couleurs du paléolithique. Mathieu Lebon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéomètre, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle sur le site du Musée de l'Homme. Merci beaucoup de venir nous éclairer aujourd'hui sur les usages des pigments à la préhistoire, mais aussi sur la diversité des recherches qui sont consacrées à ces pigments et comment ces recherches nous éclairent d'une façon plus subtile sur les pratiques techniques et culturelles des humains du paléolithique. On va le voir, se consacrer à l'étude des pigments, c'est parfois chercher une aiguille dans une botte de foin, tant ces traces de couleurs du passé lointain sont ténues. Mais avant cela, Mathieu Lebon, j'aimerais qu'on parle un peu de votre métier. Je viens de le dire, vous êtes archéomètre. En quoi consiste cette science méconnue du grand public, l'archéométrie, qui a émergé, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 80.
Oui, exactement. L'archéométrie, c'est une sous-discipline, finalement, de l'archéologie, ou si on le voit d'un autre côté, aussi une sous-discipline de la physique et de la chimie. Et en fait, dans cette discipline, on va combiner des approches classiques de la physico-chimie, de la géochimie, de la biochimie, pour les appliquer à des matériaux archéologiques, dans le but, et ça c'est vraiment important, de répondre à des questionnements archéologiques. Et donc on va essayer de caractériser la matière à différents niveaux, au niveau macroscopique, microscopique, au niveau de la structure, au niveau de la composition moléculaire, minéralogique, et puis un peu plus loin même, au niveau de la composition en atomes, la composition élémentaire, voire la composition isotopique.
Quels sont les outils que vous allez utiliser au quotidien? J'imagine que si cette science a émergé dans les années 1980, c'est qu'on a eu besoin de certaines innovations, outils particuliers pour aller percer à jour les mystères de cette matière subtile.
Oui, alors, en fait, on va utiliser classiquement les méthodes de la physique et de la chimie, mais qu'on va adapter à nos matériaux, puisqu'on a des matériaux qui sont quand même assez hétérogène dû à l'action humaine, à leur origine naturelle et puis à leur altération au cours du temps. En plus, on a des matériaux qui ont une valeur patrimoniale qui est assez conséquente et ça va nous obliger à adapter nos techniques pour minimiser la taille des prélèvements, voire même dans certains cas ne pas faire de prélèvements du tout, faire de l'analyse non invasive et dans certains cas même déplacer nos instruments sur le lieu de collection, sur le site archéologique, par exemple pour analyser des pigments d'une peinture d'un site préhistorique qu'on ne peut pas prélever. Mmh.
Alors ces pigments justement, puisque ce sont parmi les matériaux que vous étudiez en tant qu'archéomètre, est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour ces matériaux collectés pendant longtemps par les archéologues, mais finalement qui ont été peu étudiés? Alors on peut se poser une première question, pourquoi est-ce que les pigments ont peu été étudiés et pourquoi y a-t-il aujourd'hui un regain d'intérêt pour ces pigments?
Alors, déjà, il faut définir de quoi on parle exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de pigments pour le paléolithique essentiellement d'origine minérale, avec des oxydes de fer, les jaunes et les rouges, goethite ou hématite, et puis pour le noir, essentiellement du charbon de bois ou des oxydes de manganèse. Et en fait, ces matériaux, ils ont été détectés assez tôt hein, dans l'histoire, dès la fin du 19e, début 20e, juste après la reconnaissance de l'ancienneté de l'art préhistorique. Des chimistes vont s'emparer de ces matériaux et déterminer leur nature, oxyde de fer, oxyde de manganèse. Et sauf qu'à l'époque, en fait, il faut quelques grammes de matière pour analyser. Et ça a bloqué les analyses pendant très longtemps, et finalement, il faut attendre les années 90, avec le développement de la microscopie électronique à balayage, à transmission, les instruments dédiés à l'analyse du patrimoine, par exemple l'accélérateur Aglaé, qui est dans les sous-sols du Louvre, pour pouvoir s'emparer de ces matériaux.
Parce que parfois, les traces sont pas forcément évidentes, elles sont aussi ténues, et là aussi, ça implique des outils d'observation qui sont de pointe pour pouvoir aller chercher ces petits éléments discrets.
Oui, voilà, elles sont ténues. Hein. Une couche de pigment sur une peinture préhistorique, c'est quelques microns d'épaisseur, des centièmes de millimètre, et du coup, on va être contraint de prélever et de faire des analyses avec des microscopies poussées, ou des instruments qui vont permettre de ciblés au sein des couches d'altération, au sein de, sur le support, de très très fins résidus.
On parlait tout à l'heure, vous évoquiez le fait que ces pigments étaient principalement d'origine minérale pour la préhistoire, avec ces teintes ocre, donc jaune ou rouge, et ces teintes noires. Est-ce que il y a des teintes qui sont issues finalement de sources végétales connues pour cette période du paléolithique? Parce que bon, bien sûr, on le rappelle, le végétal c'est une matière organique, donc c'est compliqué à conserver. Est-ce qu'on a des traces de ça?
Oui, alors il y a des traces qui ont été toutes découvertes vraiment très récemment, puisqu'en fait les premiers de la matière organique, des pigments de nature organique qui sont finalement les mêmes qu'on va retrouver un petit peu plus tard au paléolithique, notamment des pigments à base de garance, de la garance, qui a été mise en évidence dans des niveaux archéologiques d'à peu près 15 000 ans en Israël, dans la grotte de Kebara. C'est de la garance des teinturiers qui a été utilisée aux époques modernes. Et ça, c'est une découverte de mémoire de 2022. Donc c'est très très récent. Ça montre finalement qu'on a aussi maintenant les moyens analytiques d'aller un peu plus loin et d'analyser ces matériaux. Donc on est sur des pigments rouges.
Et on va voir aujourd'hui que voilà, ces moyens mis à disposition par l'archéométrie permettent finalement d'élargir un peu notre palette de couleurs pour ces périodes préhistoriques. On va essayer de faire un petit peu du général au particulier, de l'évident vers le moins évident en matière d'utilisation de ces pigments à la préhistoire. On va partir de l'évidence, l'art rupestre. Quelles sont les traces les plus connues, les plus anciennes, peut-être déjà dire que c'est pas quelque chose de récent dans l'histoire de l'humanité. Enfin, ça remonte à très très longtemps, ces usages de pigments par les espèces humaines hors sapiens.
Oui, alors si on reste sur l'expression la plus connue, on va être sur des premiers sites autour de 45 000 ans en Asie du Sud-Est, et puis avec l'arrivée d'hommes modernes en Europe, un gros développement. Mais en fait, on s'est aperçu depuis longtemps que des matières colorantes se trouvaient dans des niveaux archéologiques, en dehors de toute expression symbolique, dans des niveaux datés de 100 000, 200 000, voire 300 000 ans. Et donc ça, c'est quand même assez ancien. Dès les années 80, il y a pas mal de publications là-dessus, mais c'est finalement un matériel qui va être un peu laissé de côté. On voit que c'est un matériel assez important, mais finalement, les archéologues ne s'emparent pas forcément de la problématique, qui est quand même en fait assez complexe. Et puis, donc récemment, avec le renouvellement des techniques et puis l'avènement de nouvelles méthodologies d'études et notamment des études un peu plus intégratives autour des années, à partir des années 80, enfin à partir des années 2000 et qui se concrétisent vraiment vers 2010, on a un certain nombre d'archéologues qui vont reprendre des anciens corpus archéologiques, de fouilles qui ont été fouillées il y a plus de 40 ans, pour leur appliquer les nouvelles techniques de fouilles.
C'est ça qui est hyper impressionnant, c'est qu'il y a en ce moment tout un travail de réexamen de collections archéologiques où là, on va aller chercher la petite bête, le pigment en question.
Voilà, et on fouille quasiment peu sur ces programmes, on réétudie l'ancien matériel pour finalement essayer de réintégrer ce matériel au sein de nos connaissances modernes, y compris pour essayer d'aller un peu plus loin sur les chaînes opératoires, notamment dans des contextes où on n'a pas forcément que de l'expression symbolique, puisqu'il y a énormément d'applications finalement et d'utilisations, on s'en rend compte depuis une dizaine d'années, par la combinaison des approches ethnographiques, archéologiques et expérimentales.
Parlons justement de ces autres utilisations que des utilisations à des fins picturales, artistiques. Comment on peut déterminer justement d'autres fonctions qu'auraient pu avoir ces pigments? Sur quels autres supports que des parois de grottes on va pouvoir trouver des pigments? Et quel sens on va donner à ces pigments-là?
Alors, les approches, comme je l'ai dit, en fait, elles partent du matériel archéologique. Elles vont poser un contexte. Et à partir de ces échantillons archéologiques, on va essayer d'émettre des hypothèses et interroger les corpus, les études ethnographiques, d'autres corpus archéologiques, et puis éventuellement l'expérimentation pour tester les processus et éventuellement les valider. Et à partir de là, en fait, on a pu mettre en évidence que les matières colorantes, et notamment les matières colorantes rouges, qui sont très abondantes à la fois dans l'environnement et sur les sites archéologiques, sont vraiment au centre de nombreuses activités, au cœur des activités quotidiennes de ces populations.
Quelles activités, par exemple?
Alors, elles sont nombreuses. on peut commencer par des applications sur la peau. Et par exemple, dans le registre ethnographique, on a un certain nombre d'exemples. On le voit encore actuellement dans des populations qui ont des modes de vie assez traditionnels, par exemple au nord de la Namibie, les Himba, qui vont utiliser un beurre clarifié mélangé à de l'ocre, de l'hématite, pour s'enduire le corps et se colorer le corps. Donc ça a été étudié et effectivement ça a un impact symbolique très 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 fort, hein. Mais aussi dans les interviews qui ont pu être réalisées avec ces membres de ces populations, l'aspect protection ressort. Et des collègues, Ryan Rifkin, Francesco Derico, sont intéressés à l'origine de cette protection et ont testé la protection par rapport aux UV du soleil et par rapport aux insectes et notamment les moustiques. Ils ont appliqué les mêmes protocoles que pour tester une crème solaire ou des répulsifs pour les insectes. Et en fait, ils ont pu montrer que ce mélange, hein, beurre clarifié avec un ocre de très très fin, pouvait être équivalent à un indice presque de 15 en crème solaire. Et puis, pour ce qui est de répulsifs, des choses qui se rapprochent des répulsifs qu'on peut acheter en pharmacie actuellement. Donc on comprend que dans une zone tropicale, avec du soleil et des insectes, et notamment des moustiques vecteurs de maladies, ça peut avoir un intérêt assez conséquent.
A retrouvé pour le paléolithique européen, notamment, des traces de peinture corporelle? Alors bien sûr, la peau n'est plus là, mais sur des vestiges fossiles humains, des traces de peinture et de pigments?
Alors, on en a dans des contextes de sépulture, au paléolithique supérieur. Alors, donc, sépulture et funéraire, on va retrouver quasiment systématiquement, en tout cas avec une très forte fréquence, des pigments rouges.
Ocre, oui.
De l'ocre, oui. Et par contre, on a d'autres indices aussi qui vont nous aider. Bien évidemment, la peau n'est plus conservée, mais on a tous les outils, artefacts et objets de parure notamment qui ont été en contact avec cette peau et qui ont pu s'imprégner de ce colorant rouge. Et ça, on le trouve sur des sites archéologiques quasiment à 100 000 ans, voire même un peu plus, en Afrique du Nord, en Afrique australe, le site d'Annasra ou de la grotte de Taforal, par exemple, au Maroc. Donc ça, c'est des indices très importants et qui nous permettent d'avancer aussi sur notre compréhension de l'expression symbolique via le corps et cette peinture qui est appliquée sur le corps.
Il y avait cette potentielle expression symbolique de peinture corporelle avec ces pigments, mais il y avait aussi une fonction utilitaire dans les pigments, dans le travail des peaux qui revêtaient ces humains qui étaient dans ces sépultures. Alors, quelles étaient, franchement, voilà, moi, quand j'ai préparé cette émission, je pensais pas que les pigments puissent avoir une telle variété d'utilisation possible. Comment un pigment va-t-il aider à la préparation d'une peau?
Et bien là encore, c'est l'expérimentation qui permet de mieux comprendre le phénomène en collectant des peaux et en les travaillant à la manière similaire de ce qu'ont pu faire les préhistoriques, avec des outils similaires et des matériaux similaires. Et on va étudier les processus. Et en fait, on se rend compte que l'ocre, l'hématite, va avoir tendance à avoir un rôle antiseptique, donc limiter le développement de bactéries et puis se complexer avec le collagène pour assurer un bon maintien de l'applicabilité. Et on a des choses qui sont vraiment très bonne par rapport à des tanins qui ont pu être utilisés à des époques plus récentes.
Est-ce qu'il y a d'autres utilisations, du coup, qui sont moins évidentes des pigments à la préhistoire?
Alors, sur la peau, on a aussi l'utilisation des oxydes de manganèse qui ont pu être proposés en décoration, notamment avec des travaux sur le site de Pêche de Laz. Donc là, on est autour de 50 000 ans, donc chez Néandertal. Et des hypothèses sur des dessins, l'utilisation de dessins sur la peau, qui ont été un peu revus aussi par Marie Soresi il y a quelques années, qui émet l'hypothèse de l'utilisation pour allumer le feu, puisque les oxydes de manganèse, et là encore c'est l'expérimentation qui le montre, ces oxydes de manganèse utilisés sur ce site en tout cas ont la capacité à faciliter l'allumage en faisant baisser la température à laquelle le bois va s'enflammer.
Puisque vous parlez de Néandertal, c'est intéressant parce qu'il y a une étude parue fin octobre 2025 dans Science Advances qui fait état du travail de l'ocre par des Néandertaliens en Crimée, avec des pierres taillées en pointe que les chercheurs appellent des crayons d'ocre. Alors voilà, là on est aussi chez Néandertal, cousin de Sapiens, c'est pas du tout une prérogative de Sapiens d'utiliser des pigments. Est-ce que Néandertal, lui aussi, était un grand amateur de couleurs?
Alors, un grand amateur, je n'irai pas jusque-là, c'est difficile à dire. En tout cas, les témoignages archéologiques auxquels nous avons accès sont plus limités que pour Homo sapiens. Néanmoins, on le voit, et on le voit de plus en plus avec aussi des sites néandertaliens de plus en plus repris au niveau des études, où on a des matières colorantes qui sont exploitées. Peut-être un peu plus de noir que de rouge. Il y a par exemple, mais ça va plutôt être dans une phase assez tardive de présence des néandertaliens, et notamment le châtel péronien. Donc, qui fait la transition avec l'arrivée de l'homme moderne en Europe, avec par exemple le site d'Arcy-sur-Cure qui a été repris. Mmh. Et donc là, les études dont vous faisiez référence en Crimée sont beaucoup plus anciennes. Elles sont datées de 70 000 ans. Mmh. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que les chercheurs avancent aussi le fait qu'un certain nombre de tracés ne sont pas que utilitaires pour produire la poudre, mais sont également symboliques.
Alors Mathieu Lebon, il faut aussi rappeler que pour fabriquer des pigments, finalement, ça réclame un savoir-faire assez complexe. Il suffit de regarder par exemple les blasons dans la grotte de Lascaux pour se rendre compte que là, les préhistoriques avaient vraiment penser une composition de leur matière première picturale. Quels sont ces savoir-faire à maîtriser finalement pour préparer des pigments différents?
Alors finalement, pour préparer les pigments, c'est relativement simple et c'est même un problème pour nous parce que ça évolue très peu au cours du paléolithique. En gros, pour préparer un pigment, on va le broyer ou la braser sur une surface rugueuse pour obtenir une poudre. Par contre, c'est l'utilisation de cette poudre derrière qui va être parfois complexe. Typiquement, dans le cas dont vous évoquiez à Lascaux, hein, c'est les travaux notamment de ma collègue Émilie Chalmin à Chambéry, qui, pendant sa thèse au Louvre, a pu travailler sur ces figures de quadrilatères, en l'occurrence la noire, qui sont au pied du panneau avec les deux vaches. Et elle a pu montrer qu'en fait, ces pigments noirs qui nous apparaissent noirs, en fait, ont des compositions différentes. Donc, une même unité stylistique avec une recherche de matériaux différents. Soit pour des tests ou pour une origine qui ne nous est pas comprise, mais en tout cas, il y a une vraie recherche au-delà de l'aspect artistique.
Comme une palette, quoi.
Comme une palette, voilà, ouais. Exactement. On teste la palette, on prépare les matériaux, peut-être avec aussi des ajouts de charge, des mélanges, ça s'était montré aussi à Nio par Claude et Walter notamment, Philippe Walter, avec des recettes différentes qui peuvent évoluer à différents moments.
Alors, on va parler, bien sûr, dans un instant des bleus. On a une dernière fonction, moins évidente aussi, qui est celle des pigments à la préhistoire, c'est celle de liant dans des cols.
Voilà, dans des cols d'emmanchement. Et donc, ça, c'est des indices aussi qu'on va retrouver de façon assez ancienne et qui montrent la complexité, en fait, de l'utilisation de la poudre qui est faite. Puisque dans des cols d'emmanchement, donc l'idée, c'est de fixer un outil, du silex ou une autre roche, avec un manche en bois, et on peut le faire avec des résines d'arbres, des bitumes, mais sur certains sites, on voit en plus de l'ocre, et ça, c'est un phénomène qui apparaît dès 70 000 ans en Afrique du Sud, mais on en a des indices aussi en Afrique du Nord, peut-être de façon un peu plus ancienne. Et donc là, en fait, l'expérimentation a montré que, en faisant ça, on conférait une plus grande dureté à ces matériaux, avec la possibilité de le ramollir en le chauffant, de le mettre en forme chaud autour de la pièce, et au refroidissement, on a quelque chose de vraiment très. Donc là, c'est très complexe en termes de conception au niveau technique pour maîtriser les matériaux qui sont ajoutés, mélangés et qui nous permettent de revoir un petit peu notre idée de cet homme préhistorique archaïque, en fait.
Il était un peu chimiste aussi, voilà. À sa façon. Alors, je l'évoquais en introduction de cette émission, Mathieu Lebon, il y a deux découvertes qui sont assez récentes, qui datent de 2025, toutes les deux, et qui font état de découvertes de pigments bleus pour ces périodes paléolithiques. On va parler peut-être de l'étude parue en septembre 2025 dans la revue Antiquity, qui fait état de présence de traces d'azurite, donc une pierre présente dans les collections du site de Mülheim Dietesheim. Cette pierre, elle présente donc des traces d'un résidu bleu qui date d'il y a 13 000 ans. Pourquoi est-ce que c'est autant que ça une surprise? Et finalement, qu'est-ce qu'on se disait jusqu'à présent concernant l'émergence du bleu, qui est une couleur assez rare?
Alors, effectivement, au paléolithique, on considère qu'on a uniquement du rouge, du noir, du jaune. Le bleu est très anecdotique. En fait, finalement, le bleu, on ne le retrouvait pas jusque très récemment et n'était présent que pour les périodes qui suivent, le néolithique, et puis se développer de plus en plus avec le proto-historique et puis l'antiquité, effectivement. Et là, effectivement, alors, sur un bloc de grès qui a possiblement servi comme comme meule ou réceptacle de ce matériau, quelques traces qui font quelques millimètres de
il faut bien les voir.
Je vous encourage à essayer, vous trouverez les photos facilement sur le web. Voilà, c'est des traces très ténues. Oui. Et qui ont été par contre là pour le coup largement étudiées avec plus de 6 techniques qui ont été mises en œuvre, de l'analyse élémentaire, de l'analyse minéralogique, et qui ont montré que c'était de l'azurite, un carbonate de cuivre qui a été utilisé. Alors ils ont même fait de l'analyse des isotopes du plomb pour montrer que c'était compatible avec des sources assez locales, une quinzaine de kilomètres. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une des premières preuves de l'utilisation d'un pigment minéral bleu au paléolithique.
Et vous le dites, Mathieu Lebon, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs, ils ont mis en évidence le fait que, à la même époque, les humains extrayaient deux autres minerais dans la même région, du silex et de l'ocre rouge. Ça veut dire que chimistes, artistes, pêcheurs, chasseurs, cueilleurs, ils étaient aussi géologues, les paléolithiques,
c'est ce alors, que ça alors les
mineurs.
Oui, alors ça, c'est pas l'ocre qui nous le dit, hein. Les collègues qui travaillent sur les silex, ils le savent depuis un bon moment. Oui, ils connaissaient très, 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 très bien leur territoire. Ils avaient une capacité à aller faire de l'inventaire géologique, comme on peut le faire nous actuellement dans le cadre de nos programmes de recherche, mais d'être capable de bien connaître leur territoire, d'aller spécifiquement chercher le matériau, je pense, dont ils avaient besoin.
Alors, ces chercheurs, ils vont plus loin et disent que l'azurite était utilisée pour des activités archéologiquement invisibles qui ne se conservent pas, comme la décoration des corps ou la teinture des tissus. C'est déjà aller trop loin dans l'interprétation ou bien c'est entendable et on attend la suite pour de plus grandes preuves?
C'est une piste de discussion. Moi, je ne serais pas allé jusque-là. Disons qu'on parle de traces très ténues. On parle même de ruptures culturelles. Donc, on parle de quelques traces sur un bloc. Là où c'est intéressant, c'est que ça nous amène à nous poser la question de l'origine de ce pigment bleu. Pourquoi on le trouve là, sur ce site? Est-ce que c'est le seul site? Peut-être que d'autres assemblages archéologiques ont été écartés. On le voit aussi par la découverte sur d'autres sites de pigments bleus organiques qui ont été découverts. Là aussi, il y a une combinaison du fait que on recherche ces matériaux parce qu'on a les moyens analytiques pour le faire et que si on a des premières découvertes, on va pouvoir être amené à se dire tiens, sur d'autres corpus, peut-être qu'on a le même type de matériaux. Mmh. On parle parfois de corpus anciens, on peut avoir du mal à distinguer quelque chose de récent, des contaminations récentes d'un fait archéologique. Et c'est vrai que quand on voit du bleu sur un... On pourrait plus facilement penser à de l'encre qu'à des pigments. Là, pour le coup, c'est des pigments naturels, donc minéraux, donc ouais. ça ressort bien.
Parlons justement de cette autre étude parue dans la revue PLOS ONE en mai 2025, qui fait état, quant à elle, de broyage délibéré de feuilles de pastel des teinturiers. En latin, je le donne pour nos amis botanistes, Isatis tincturia L. Et là, ça date d'il y a environ 33 000 ans. Là, c'est dans une grotte en Géorgie. Et c'est une plante donc non comestible qui contient de l'indigo. Que nous dit cette étude et pourquoi elle aussi, elle est surprenante pour ce paléolithique et ce bleu?
Alors, elle nous dit déjà que c'est du pigment bleu, ce qui est déjà très rare. Alors, pour aussi un peu préciser, on parle là de microfibres qui font 25-30 microns de taille.
Extrêmement ténues.
Extrêmement ténues, qui ont été trouvées grâce à des nouvelles méthodes qui permettent de mieux extraire les résidus organiques de roches et d'outils, en fait, en roches.
Donc là, on étudie vraiment, finalement, les dépôts moléculaires à la surface.
Oui, voilà. On est à l'échelle de la cellule de feuilles.
Ouais.
Et donc, ces pigments bleus ont pu quand même être caractérisés et montrer qu'il s'agissait d'un pigment bleu issu de matériaux organiques et qui se forme qui devient bleu finalement au moment du broyage et de la fermentation des matériaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est confirmé par des traces cette fois-ci de présence de l'ADN de cette même plante dans des sédiments archéologiques d'un site à 36 000 ans dans le Caucase, donc à proximité. Donc là, on commence à avoir un faisceau d'indices quand même pour nous dire qu'on a peut-être dans cette région, en tout cas dans cette région, de l'utilisation de ces matériaux organiques pour réaliser un pigment bleu organique.
Si c'est pas comestible, cette plante-là, alors à nouveau, on se repose la question toujours très très difficile à résoudre pour ces périodes très reculées de la fonction et de la raison pour lesquelles on aurait pu broyer ces végétaux-là, quelles auraient pu être les fonctions de cette matière première-là.
Oui, alors effectivement, on n'a pas forcément une utilisation initialement dans un rôle de pigment. En fait, on commence de plus en plus à découvrir que, notamment Néandertal, utilisé, alors là, et l'Homo sapiens aussi, à travers des analyses, par exemple, sur le tartre dentaire, d'être capable d'analyser les résidus alimentaires dans les tartres dentaires et se rendre compte que, déjà, d'une part, le régime alimentaire était peut-être un petit peu plus diversifié avec la présence de plantes, de l'amidon qui est découvert, qui montre la consommation de tubercules, etc. Et puis, des plantes qui n'ont pas de valeur nutritive et qu'aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à utiliser dans un cadre médicinal. Et donc, de l'automédication qui pourrait avoir lieu. Alors, je ne sais pas du tout si c'est le cas pour
ce... C'est du très grand conditionnel pour ce
cas. Mais voilà, en tout cas, ça nous amène à avoir une vision plus globale de l'utilisation aussi des plantes par ces populations à la préhistoire.
Mais si ce bleu commence à pointer le bout de son nez pour ces artefacts paléolithiques, est-ce qu'il faut imaginer une préhistoire plus colorée que ce qu'on imaginait jusqu'à présent? Est-ce qu'il faut reprendre toutes ces collections qu'on a à disposition pour aller traquer des traces de bleu?
Alors oui, la préhistoire plus colorée, certainement. Alors par rapport à l'image qu'on en a, puisque déjà c'est des populations qui, de par l'usage de l'ocre de façon assez intensive sur certains sites, vivaient dans un environnement qui, par un moment, devait être assez coloré quand même, en termes de coloration rouge. On peut rajouter à ça qu'un certain nombre d'abris ornés, archéologique était finalement orné, on le voit par exemple à l'abri Pateau, à travers de nombreuses écailles au gravétien qu'on retrouve dans les niveaux archéologiques. Donc ils vivaient dans un environnement très décoré, parfois même dans des niveaux avec de la polychromie. Et puis cette couleur, effectivement, on peut être amené à essayer d'orienter aussi des revues de matériel archéologique, de collections anciennes, avec cet œil d'essayer de détecter d'une part des pigments colorés et des pigments de colorés organiques aussi. Donc des couleurs, du bleu, du vert, pourquoi pas, mais aussi des pigments rouges d'origine organique.
Est-ce que ce serait finalement des tâches auxquelles vous serez amené à vous confronter? Quelle collection finalement pourrait faire l'objet de ce type de réexamen, si on prend l'exemple de la France par exemple?
Il y a effectivement beaucoup de collections qui sont en train d'être revues. Il y a un gros engouement actuellement, et on le voit par l'état des publications, hein, sur ces matériaux, avec différentes équipes qui travaillent là-dessus. Et on est amené, alors dans le cadre par exemple d'un programme de recherche qu'on a en Dordogne actuellement, à revoir un certain nombre de collections qui sont actuellement soit au Musée national de préhistoire, soit au Muséum national d'histoire naturelle, pour essayer de mieux comprendre ces collections, et effectivement avoir un regard neuf sur les possibles utilisations.
C'est fabuleux de voir que l'archéométrie et toutes ces disciplines finalement qui gravitent autour de ces périodes préhistoriques nous permettent de mieux comprendre et puis de faire un portrait de plus en plus coloré justement de cette préhistoire. Merci beaucoup à vous, Mathieu Lebon, d'être venu nous parler de ces pigments à la préhistoire et de ces pigments bleus qu'on espère plus nombreux dans les années à venir. Notre émission touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny, à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Paul Guigue aujourd'hui à la technique et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.